L'assassinat de Walter Guinness, premier baron moine, un tournant dans le conflit palestinien. Le 6 novembre 1944, les rues du Caire devinrent la scène d'un acte de violence politique choquant qui résonna à travers le Moyen-Orient et au-delà. Walter Edward Guinness, premier baron moine, ministre résident britannique au Moyen-Orient, fut assassiné par deux membres du groupe militant juif Lehi, aussi connu sous le nom de Gang Stern. Cet acte audacieux non seulement coûta la vie à un homme d'État britannique éminent, mais il fit également dérailler un chemin potentiel vers un État juif, intensifiant le conflit déjà volatile en Palestine. L'assassinat de Lord Moine reste un moment pivotal dans l'histoire de la politique coloniale britannique, du militantisme sioniste et de la lutte pour le contrôle de la Palestine. L'homme, Walter Guinness, premier baron moine. Walter Edward Guinness, premier baron moine, 1880-1944, était un homme politique britannique éminent, homme d'affaires, soldat et membre de la famille anglo-irlandaise de brasseurs Guinness. Né le 29 mars 1880 à Dublin, en Irlande, il était le troisième fils d'Edward Guinness, premier comte d'Ivea, héritier de la riche et influente dynastie Guinness. Éduqué au Collège d'Eton, il excella dans des rôles de leadership, servant comme président de la prestigieuse société Pop et capitaine des bateaux. En 1903, il épousa Lady Evelyn Hilda Stuart Erskine, fille du 14e comte de Buchan. Le couple eut trois enfants, dont son successeur Brian Guinness, deuxième baron moine, qui devint plus tard poète et romancier. L'éducation privilégiée de moine n'atténua pas son sens du devoir. Décrit par ses contemporains comme intelligent, scrupuleux et dévoué au bien public, il se consacra au service militaire et politique tout au long de sa vie. Sa fortune familiale immense, estimée à environ 3 millions de livres, lui conféra à la fois influence et indépendance, qu'il utilisa pour poursuivre des intérêts réformistes en agriculture, logement et politique coloniale. Service militaire. La carrière militaire de Guinness débuta pendant la Seconde Guerre des Boers, 1899-1902, lorsqu'il se porta volontaire pour le service avec l'impérial Yeomanry, fut blessé au combat et reçut la médaille de l'Afrique du Sud de la Reine. Pendant la Première Guerre mondiale, il combattit en Égypte, à Gallipoli et en France, montant au grade de lieutenant-colonel. Deux fois décoré de l'Ordre du Service Distingué, DSO avec barrette, pour bravoure, il développa un attachement à vie au Moyen-Orient. Ses journaux de guerre, publiés en 1987, révèlent un soldat réfléchi doté d'un sens aigu de l'humanité et de l'histoire, un homme qui considérait l'Empire à la fois comme un devoir et un fardeau. Carrière politique. Après son retour du front, Guinness entra dans la vie publique en tant que politicien conservateur. Il siégea au London County Council, 1907-1910, et fut député de Bury St. Edmund de 1907 à 1931. Au cours d'une carrière d'environ trois décennies, il occupa plusieurs postes influents, sous secrétaire d'État à la guerre, 1922-1923, secrétaire financier au Trésor, 1923-1925, et ministre de l'Agriculture et de la Pêche, 1925-1929, où il promut la culture de la betterave sucrière et la modernisation rurale. Élevé à la pairie en 1932 comme baron moine, il continua à siéger à la Chambre des Lords. Il contribua à de grandes enquêtes publiques, notamment le comité de 1933 sur le déblaiement des taudis, la commission royale sur l'université de Durham en 1934 et la commission royale des Indes occidentales en 1938. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Moine rejoignit à nouveau le gouvernement comme secrétaire parlementaire conjoint au ministère de l'Agriculture, 1940-1941, secrétaire d'État aux colonies et leader de la Chambre des Lords, 1941-1942, et enfin comme ministre résident au Moyen-Orient, 1942-1944. À ce titre, il supervisa la stratégie britannique dans les territoires allant de la Libye à l'Iran et fut le représentant principal de Winston Churchill dans la région. Affaires et autres activités. En tant que directeur de la brasserie Guinness, Moine joua un rôle dans l'expansion mondiale de l'entreprise familiale. Il cofonda British Pacific Property à Vancouver et commanda la construction du pont Lion Gate, inauguré en 1939. Philanthrope, il aida également à financer des fiducies de logements à Londres et à Dublin pour améliorer les conditions des familles ouvrières. La curiosité et l'esprit d'aventure de Moine l'amenèrent au-delà de la politique et du commerce. Passionné de yachting et d'exploration, il posséda plusieurs yachts convertis, Arfa, Rusalka et Rosora, et entreprit des expéditions à travers les océans Pacifique et Indien. En 1935, il ramena le premier dragon de Komodo vivant en Grande-Bretagne, et ses collections zoologiques et ethnographiques furent plus tard données à des musées. Il écrivit Walkabout, A Journey Between the Pacific and Indian Oceans, 1936, et Atlantic Circle, 1938, des livres qui révèlent son intérêt pour l'anthropologie et la compréhension interculturelle. Contexte historique, le Moyen-Orient et la crise palestinienne. L'assassinat de Walter Guinness, premier baron moine, survint au milieu de tensions croissantes dans le mandat britannique de Palestine pendant la Seconde Guerre mondiale. En tant que ministre résident au Moyen-Orient depuis 1942, Moine était responsable de la supervision de la stratégie de guerre dans une région critique pour l'Empire britannique et l'approvisionnement en pétrole. Cela incluait l'application du Livre blanc de 1939, qui restreignait sévèrement l'immigration juive en Palestine, limitée à 1500 immigrants par mois. Planification et auteur. L'idée d'assassiner le ministre résident britannique émana du fondateur du LEI, Avraham Yair Stern, qui l'envisageait comme une frappe symbolique contre le système impérial britannique. Après la mort de Stern en 1942, le plan fut relancé sous la nouvelle direction du LEI, y compris Yitzhak Shamir, futur premier ministre d'Israël. Deux jeunes juifs palestiniens, Eliyahu Hakim, 19 ans, et Eliyahu Betsuri, 22 ans, furent choisis pour exécuter la mission. Ils furent sélectionnés non seulement pour leur engagement, mais aussi pour leur capacité à attirer l'attention internationale sur la cause juive par une attaque hors de Palestine, la première opération du LEI à l'étranger. Le LEI cibla délibérément Moine en tant qu'aristocrate britannique d'origine irlandaise de haut rang dont la mort résonnerait à travers l'Empire. Dans la planification, le groupe souligna le potentiel de l'assassinat pour dramatiser la souffrance juive, défier l'autorité britannique et dépeindre la lutte sioniste comme faisant partie d'une campagne mondiale anticoloniale. L'assassinat, une attaque minutieusement planifiée. Au début de l'après-midi du 6 novembre 1944, Hakim et Bezouri attendirent près de la résidence de Moine sur l'île de Jezira au Caire. Vers 13h10, la voiture de Moine arriva, conduite par le caporal-chef Arthur Fuller et transportant sa secrétaire Dorothy Osman et son aide de camp le major Andrew Hughes Onslow. Les assassins s'approchèrent à vélo. Bezouri tira sur Fuller dans la poitrine, le tuant instantanément. Hakim ouvrit la portière de la voiture et tira 3 balles sur Moine. Une atteignit son cou au-dessus de la clavicule, une autre son abdomen, perforant le côlon et se logeant près de la colonne vertébrale, et la troisième érafla ses doigts et sa poitrine. Moine fut transporté d'urgence dans un hôpital militaire britannique, mais succomba à ses blessures plus tard dans la journée, à l'âge de 64 ans. Les assaillants fuirent mais furent poursuivis par la police égyptienne. Après un bref échange de tirs, ils furent capturés et faillirent être lynchés par des passants enragés avant d'être arrêtés. L'analyse médico-légale relia plus tard leurs armes à des opérations précédentes du LEI contre des responsables britanniques. Conséquences immédiates. L'assassinat choqua le monde et fit la une des journaux. Les autorités britanniques, craignant des troubles, s'abstinrent de représailles massives contre la communauté juive mais renforcèrent la sécurité à travers le Moyen-Orient. En Égypte, contrairement à la propagande du LEI, il n'y eut pas de manifestation immédiate pro-LEI, bien que des émeutes anti-juives éclatèrent au Caire et à Alexandrie un an plus tard, en novembre 1945, entraînant plusieurs morts et des dommages matériels considérables. Les services de renseignement britanniques avertirent d'éventuelles attaques imitatrices, une crainte réalisée lorsque le premier ministre égyptien Ahmad Maher fut assassiné en février 1945. Parmi ceux influencés par l'événement figurait un jeune officier égyptien nommé Gamal Abdel Nasser, qui aurait admiré le courage et la détermination anticoloniale des assassins. Procès et exécution. Hakim et Bezouri furent jugés devant un tribunal militaire égyptien en janvier 1945. Ils utilisèrent les procédures pour prononcer des discours enflammés défendant leurs actions comme faisant partie d'une lutte mondiale pour la libération nationale. Ils demandèrent des ouvrages sur l'histoire révolutionnaire égyptienne et comparèrent leur cause aux mouvements anti-impériaux en Inde et en Irlande. Malgré des appels généralisés à la clémence, de la part des communautés juives, d'intellectuels internationaux et même d'un gandhien indien qui les compara à John Brown et aux républicains irlandais, ils furent condamnés et condamnés à mort. Les appels furent rejetés, et les deux hommes furent pendus le 22 mars 1945. Les responsables britanniques, dont l'ambassadeur Miles Lampson, insistèrent pour que les exécutions soient menées rapidement, craignant que tout signe de clémence n'encourage d'autres attaques. Réaction de Winston Churchill. Walter Guinness était l'un des amis personnels les plus proches et des alliés politiques de Winston Churchill. Les deux hommes cofondèrent The Other Club et partagèrent des vacances, y compris un voyage en yacht en 1934. Churchill fut dévasté par la mort de Moine, la qualifiant d'acte odieux d'ingratitude. Dans son discours au Parlement le 17 novembre 1944, il avertit que la fumée des pistolets des assassins ne devait pas dicter la politique. Il annula une réunion prévue du cabinet pour discuter de la partition de la Palestine et devint sensiblement plus froid envers les dirigeants sionistes, refusant de répondre aux messages personnels de Weizmann. La correspondance déclassifiée révèle l'insistance de Churchill à ce qu'aucune clémence ne soit accordée aux assassins, une position reflétant à la fois le chagrin et le calcul politique. Bien que Churchill n'ait pas abandonné sa sympathie plus large pour le sionisme, l'assassinat altéra définitivement sa vision. Il transforma une amitié personnelle en rupture politique et souligna les coûts moraux et stratégiques de la position britannique au Moyen-Orient. Impacts à long terme et implications plus larges. L'assassinat de Lord Moine eut des conséquences qui dépassèrent de loin son moment immédiat. Il approfondit la méfiance entre la Grande-Bretagne et le mouvement sioniste, fit dérailler une proposition de partition à court terme et contribua à la décision finale de la Grande-Bretagne d'abandonner le mandat. L'escalade subséquente de la violence aboutit au vote de partition de l'ONU en 1947 et à l'établissement d'Israël en 1948. En Israël, les assassins, condamnés mondialement comme terroristes, furent réimaginés comme des martyrs de la libération nationale. En 1975, leurs restes furent rapatriés d'Égypte lors d'un échange de prisonniers et réinhumés avec tous les honneurs militaires au mont Herzl à Jérusalem. Une ombre durable, les relations britannico-israéliennes et le lien royal. L'héritage de l'assassinat de Lord Moine s'étendit bien au-delà des années 1940, projetant une ombre subtile mais durable sur les relations britannico-israéliennes. L'un de ses symboles les plus durables fut l'absence de la reine Élisabeth II en Israël tout au long de son règne de 70 ans. Malgré des visites dans plus de 120 pays et de multiples invitations de dirigeants israéliens, elle n'effectua jamais de visite d'État officiel. Alors que le gouvernement britannique maintenait une politique informelle décourageant les visites royales en Israël pour éviter d'aliéner les alliés arabes et de compromettre les relations commerciales dans la région, des facteurs personnels et historiques jouèrent également un rôle. Le souvenir des attaques militantes sionistes contre le personnel britannique pendant le mandat, notamment l'assassinat de Lord Moine en 1944, un ami proche de Winston Churchill, laissa une empreinte durable sur la monarchie et l'establishment britannique. Le meurtre de Moine, partie d'une campagne de violence plus large qui inclut l'attentat à la bombe de l'hôtel King David en 1946 tuant 91 personnes, dont des responsables et civils britanniques, symbolisa pour beaucoup dans les cercles dirigeants britanniques une période de trahison et de perte. Certains rapports suggèrent que ces souvenirs façonnèrent les perceptions privées de la reine. Un récit affirma qu'elle croyait que chaque Israélien était soit un terroriste, soit le fils d'un terroriste, reflétant à quel point une génération d'élite britannique ayant assisté à la fin violente de l'Empire en Palestine avait internalisé ces événements. Par conséquent, les responsables israéliens se voyaient rarement accorder des audiences individuelles au palais de Buckingham, les contacts étant généralement limités à des événements multilatéraux ou cérémoniels. L'ombre de l'assassinat de Lord Moine s'étendit ainsi au protocole diplomatique moderne, illustrant comment les traumatismes de l'Empire peuvent perdurer de manière subtile mais puissante sur des décennies. Conclusion. L'assassinat de Walter Guinness, premier baron Moine, fut plus que le meurtre d'un responsable britannique. Ce fut un événement sismique qui remodela la trajectoire du conflit palestinien et accéléra le démantèlement de l'Empire britannique au Moyen-Orient. Moine, soldat, homme d'État et réformateur, représentait une race en voie de disparition de pragmatiques impériaux cherchant l'équilibre au milieu de nationalismes concurrents. Sa mort fit taire un médiateur potentiel et durcit les attitudes de tous les côtés. Vu à travers le prisme des normes internationales contemporaines, le meurtre d'un diplomate étranger de haut rang sur un sol étranger serait classé sans équivoque comme un acte de terrorisme. Les définitions modernes, telles que celles utilisées par les Nations Unies et la plupart des gouvernements nationaux, identifie la violence politique délibérée contre des responsables non combattants pour influencer la politique comme du terrorisme, quel que soit le motif ou la cause. Bien que l'OLEI ait encadré ses actions comme une résistance anticoloniale, le ciblage d'un dirigeant politique civil à l'étranger tombe carrément dans la conception actuelle du terrorisme, soulignant la tension persistante entre la violence révolutionnaire et la légitimité morale. Référence. Barnett, Corelli. The Collapse of British Power. London, Methuen, 1972. Ben Yehuda, Nachman. Political Assassination by Jews, A Rhetorical Device for Justice. Albany, State University of New York Press, 1993. Churchill, Winston, S. The Second World War. Volume 6, Triumph and Tragedy. London, Cassell, 1954. Cohen, Michael G. Churchill and the Jews. London, Frankas, 1985. Gilbert, Martin, Winston S. Churchill, The Prophet of Truth, 1922-1939. Boston, Houghton Mifflin, 1977. Hoffman, Bruce, Anonymous Soldiers, The Struggle for Israel, 1917-1947. New York, Knopf, 2015. Louis, W.M., Roger, The British Empire in the Middle East, 1945-1951. Oxford, Clarendon Press, 1984. Poretiach, Yehuda, The Emergence of the Palestinian Arab National Movement, 1918-1929. London, Frankas, 1974. Schindler, Colin, A History of Modern Israel. Cambridge, Cambridge University Press, 2008. Wasserstein, Bernard, The British in Palestine, The Mandatory Government and the Arab-Jewish Conflict, 1917-1929. Oxford, Basil Blackwell, 1978. Wasserstein, Bernard, Herbert Samuel, A Political Life. Oxford, Clarendon Press, 1992. Wesman, Reim, Trial and Error, The Autobiography of Reim Wesman. New York, Harper & Brothers, 1949. Wittrich, Robert S. Sionism and its Discontent, Essays on the Jewish Struggle for Statehood. New York, Oxford University Press, 2017. The Times, London, The Murder of Lord Moine. Éditorial, 8 novembre 1944. Aretz, The Death of Lord Moine, Consequences for Zionism, novembre 1944. Hansard Parliamentary Debates, House of Commons, 17 novembre 1944, vol. 404. Royal Archive, Correspondence Relating to Middle East Policy and the Assassination of Lord Moine, 1944-1945. Windsor Castle, Royal Archive Collection. Segev, Tom. One Palestine, Complete, Jews and Arabs Under the British Mandate, New York, Metropolitan Books, 2000. Smith, Charles de Palestine and the Arab-Israeli Conflict, A History with Documents, 9e édition Boston, Bedford-Saint-Martin's S, 2021.